OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans le livre de l'Ecclésiaste. On va lire les trois premiers versets du chapitre 1. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 à 3. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alors, comme vous le savez, ce matin, on débute une nouvelle série qui a pour but d'exposer le livre de l'Ecclésiaste au complet. Alors, bien entendu, quand on commence un livre comme cela, ben, on a avantage à faire une introduction qui nous présente l'ensemble du livre et la raison pour laquelle le Seigneur nous l'a donné. Alors, le titre que j'ai donné au sermon de ce matin, c'est « Précarité des précarités, tout est précarité ». Alors, l'idée principale, c'est que toute la vie n'est que fumée, que vapeur, qu'on pourrait comparer à une bulle de savon fragile. Alors, on va regarder trois idées à l'intérieur du passage qu'on va étudier aujourd'hui. La première, ça va être dans le verset 1, la précarité exprimée. Et dans le verset 2, on va regarder une autre idée, la précarité exposée. Et dans le verset 3, on va regarder la précarité explorée. Alors, l'Ecclésiaste est un livre remarquablement pertinent. Il donne l'impression d'avoir été écrit pour notre époque, car il fait preuve d'un scepticisme propre au temps moderne. Dans un monde rempli de gens désabusés, l'auteur parle comme quelqu'un qui a goûté à tout ce que le monde peut offrir, le meilleur des plaisirs, le pouvoir suprême, un prestige inégalé et la popularité mondiale. Malgré cela, il demeure insatisfait. Rien n'a véritablement de sens. Une vie privée de relations vivantes avec Dieu est futile et dénuée de but. Une vie au cours de laquelle l'homme se réjouit des bienfaits sans trouver sa joie dans le bienfaiteur est vide, dépourvue de signification et de raison d'être. Comme l'a écrit un auteur, « J'ai épuisé les eaux de la terre, mais j'ai encore soif. » Le nouveau dictionnaire biblique dans l'édition Emmaüs définit le but du livre comme suit. Je cite, « Depuis qu'il y a des hommes et qui pensent, ils se posent la question du sens de leur vie. C'est pour eux que l'Ecclésiaste a retracé son itinéraire de recherche, souvent déroutant. Tantôt, il exhorte la crainte de Dieu, et tantôt, il semble se demander s'il existe une justice suprême et éternelle. Ici, il prône les plaisirs comme seule raison de vivre. Là, il exalte la tristesse et le deuil. Il semble haïr la vie. Et pourtant, il en déplore la brièveté. Un voile épais recouvre à nos yeux ce livre qui nous attire par ses parties lumineuses et qui nous repousse par ses obscurités. » Alors, c'est l'auteur F. de Rougemont qui avait dit cette phrase-là. Celui qui a suivi l'Ecclésiaste à travers les méandres de son itinéraire, qui a rebroussé chemin avec lui dans tous les cul-de-sac où il a amené son lecteur, voit comme seule issue du labyrinthe la foi en ce Dieu créateur, souverain, sage et insondable. La foi repousse parfois le terrain du doute et du scepticisme à l'égard de tout ce qui est prôné comme valeur ici-bas. C'est le service que l'Ecclésiaste veut rendre à ceux qui n'acceptent pas d'emblée la sereine assurance des proverbes. Il les exhorte à pousser jusqu'au bout leur raisonnement et leur recherche pour constater effectivement que toutes ces avenues tant vantées ne mènent nulle part. Lorsque nous sommes arrivés au point où nous commençons à craindre qu'un haussement d'épaule soit le seul commentaire honnête à tout ce que le monde vouait à la mort, où rien n'a de l'importance sous le soleil, alors nous sommes prêts à entendre la bonne nouvelle que ce qui a de l'importance sous le soleil, alors nous sommes prêts à entendre la bonne nouvelle que tout a de l'importance car Dieu amènera toutes choses en jugement. Sur ce roc, nous pouvons être détruits, mais c'est du roc, pas du sable mouvant. Il y a là une possibilité de construire. C'est sur ce même roc que Jésus a construit. Il a résumé et prolongé la pensée de l'Ecclésiaste en disant « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? » On peut lire ce passage-là dans le 16e chapitre de Matthieu au verset 26. Mais il a dit aussi dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, une chose qui est un petit peu curieuse quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de mention directe de la personne de Christ. Alors là, on va regarder un petit peu comment le livre traite de la place et de la présence de Christ dans le livre de l'Ecclésiaste. Bien que ne contenant ni prophétie, ni théophanie, ni type de Christ, l'Ecclésiaste apporte une forte contribution aux saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. On le lit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. La force de ce livre réside davantage dans l'absence de Christ que dans sa présence. Il témoigne que tout ce qui est bon et vertueux dans cette vie laisse fidèlement à désirer une fois éprouvé et essayé. Le livre de l'Ecclésiaste fournit des descriptions saisissantes de la vie dénuée de sens et de but pour celui qui est sans espérance et sans Dieu dans le monde. L'auteur a pris en compte tous les aspects et tous les efforts de l'expérience humaine. Il a goûté à tout et a tout essayé, et le résultat a toujours été le même. Déception, insatisfaction et désillusion. La voie est ainsi tracée pour celui qui révèle le secret de la vie, car seul Christ peut procurer une satisfaction pleine et définitive. Lui seul peut révéler le véritable sens et le but de notre existence. Le prophète Jérémie exprime le mécontentement de Dieu lorsque les gens, et le peuple d'Israël en particulier, le rejettent pour chercher ailleurs une raison d'être et de satisfaction. Dans Jérémie, chapitre 2, verset 13, on lit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Pour que les pécheurs recherchent une source d'eau vive, il faut d'abord qu'ils se rendent compte qu'ils boivent de l'eau amère, c'est-à-dire qu'ils comprennent la futilité et la stupidité de toute vie sans Dieu. Comme le Seigneur Jésus le dit à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 10, et chapitre 7, verset 37, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le Sauveur est venu pour donner un sens à la vie, et pour remplir de richesses, la remplir de richesses et de vitalité. À ceux qui entendent sa voix, l'aiment et le suivent, il déclare dans Jean 10:10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et que l'aient en abondance. » Bruce Wilkinson et Kenneth Boah opposent la vie sous le soleil, celle décrite dans l'Ecclésiaste, à celle du croyant qui est la vie sous le soleil de justice. Alors, j'ai préparé deux annexes que j'ai mis à la fin de la leçon pour ceux qui vont la télécharger. Et à chaque semaine, on va pouvoir regarder dans l'ensemble du plan où l'auteur nous amène, où que ça se situe, qu'est-ce qu'on a de vue, quel est le développement de la pensée de l'auteur de l'Ecclésiaste. Alors, on a l'annexe 1 et l'annexe 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on va garder à côté de nous le feuillet dans lequel on va avoir l'annexe 1, qui est le plan du livre. Donc, en regardant le plan du livre, on va voir de quelle façon on progresse et comment l'auteur développe sa pensée. C'est très important parce que ça nous donne un plan général, une vision globale de l'ensemble du livre. C'est important de le faire. Et si on le fait chaque semaine, on se rend compte à partir du verset 1 du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 12, on voit qu'il y a un fil conducteur. Et c'est important de le saisir parce que quand on étudie un livre, il faut avoir ce fil conducteur et comprendre qu'est-ce que l'auteur, bien sûr qui est le Saint-Esprit, veut nous faire comprendre. Et dans l'annexe 2, on vient de dire que l'auteur, Bruce Wilkinson et Kenneth Boah, ont comparé la vie sous le soleil dans l'Ecclésiaste avec la vie sous le soleil de justice qui est Christ. Alors aussi, il y a des versets dans la première colonne et on va voir les principales idées de la vie sous le soleil dans le livre de l'Ecclésiaste et on va pouvoir la comparer avec la vie sous le soleil de justice qui est Christ. Alors c'est très important parce que ça va nous amener à prendre conscience de certaines idées que le livre de l'Ecclésiaste veut nous véhiculer, veut nous faire comprendre. Mais en même temps, ça nous prépare à regarder ce que Christ, lui, qui est le soleil de justice, leur vie. C'est important de voir la vie sous le soleil dans le livre de l'Ecclésiaste, comparé avec la vie sous le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Et quand on fait les deux, la comparaison, à ce moment-là, on est richement béni. Et c'est ce qu'on va faire à partir de la semaine prochaine, la feuille annexe 1 et annexe 2. On va les garder avec nous et on va pouvoir regarder à mesure que le thème va se développer, que l'idée de l'Ecclésiaste va se dérouler, qu'on va pouvoir comprendre certaines choses et comment l'auteur veut nous emmener à l'endroit où il veut qu'on comprenne. Autre chose à dire sur le livre de l'Ecclésiaste, c'est que j'utilise plusieurs livres, plusieurs commentaires pour pouvoir le développer, c'est qu'on se rend compte qu'il y a comme unanimité chez les auteurs pour dire que le livre de l'Ecclésiaste est un livre difficile à interpréter. Par exemple, le célèbre pasteur et commentateur anglais Charles Bridges, qui a vécu de 1797 à 1869, alors c'est un homme qui a écrit un commentaire aussi sur le livre des Proverbes, donc considéré comme étant un des meilleurs commentaires qui a été fait sur le livre des Proverbes, mais il a fait aussi un autre ouvrage qui s'appelait « Exposition of Ecclesiastes », alors en 1860. Alors, je vous dis qu'est-ce qu'il dit, lui, dans son commentaire sur l'Ecclésiaste, quelle remarque il fait sur la difficulté d'interprétation du livre. Il dit « Beaucoup de théologiens érudits n'ont pas hésité à le comparer parmi les livres les plus difficiles du sacré canon. » En anglais, « Many learned men have not hesitated to number it among the most difficult books in the sacred canon. » Alors, c'est très important de voir que si on étudie un livre, qu'on sait dès le départ que des gens beaucoup plus savants que nous l'ont étudié et qu'ils nous disent presque unanimement que c'est un livre difficile à interpréter, je pense que la moindre des choses, c'est de garder son humilité et aussi, je dirais, de recourir à la prière et à demander à Dieu de nous ouvrir l'intelligence, de nous ouvrir l'esprit à la compréhension des idées qu'il veut qu'on comprenne. Alors, Bridges, il mentionne aussi que Luther lui-même croyait qu'aucun interprète ne l'avait complètement maîtrisé jusqu'à son époque. Alors, ça veut dire qu'on était rendu loin, là, depuis le début des Écritures, aller jusqu'à l'époque, on était rendu dans les 1600. Alors, autrement dit, il est en train de dire qu'il a probablement regardé un bon nombre de commentaires qui existaient à son époque, et à son avis, il n'y en avait personne qui l'avait vraiment maîtrisé. Alors, ça donne une idée de la difficulté. Alors, il y a une autre remarque que j'avais prise dans ce commentaire-là de Bridges. Il dit, par exemple, le célèbre philosophe et théologien Blaise Pascal, qui est un Français, qui a vécu entre 1623 et 1662, donc il est vraiment un philosophe et théologien célèbre, a fait une remarque fort judicieuse sur les Saintes Écritures. Il a dit, il y a assez de lumière en elle pour éliminer les élus et assez de difficultés pour les garder dans l'humilité. Alors c'est une belle compréhension des Écritures. Autrement dit, n'importe qui est sérieux, qui est vraiment régénéré, il va trouver suffisamment de lumière dans quelques passages, dans quelques livres, aussi difficiles soient-ils. Mais il va certainement rencontrer des difficultés qu'il ne sera pas nécessairement capable d'expliquer à la satisfaction de tous. Un peu comme on vient d'étudier le livre d'Apocalypse, bien sûr, on a donné notre compréhension, mais on peut pas dire avec certitude, ah, c'est l'interprétation, moi je l'ai, les autres ne l'ont pas eu avant moi. Alors, faut garder un petit peu, beaucoup, je dirais, d'humilité et ne pas oublier de demander au Seigneur, par le Saint-Esprit, de nous ouvrir l'intelligence à la compréhension des Saintes Écritures, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit des livres difficiles. Alors, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste. Alors, la manière dont l'auteur se présente a quelque chose de troublant. Il est presque sur le point de dire qu'il est Salomon, mais il se retient. Le nom Salomon n'apparaît pas dans le livre, alors que dans les Proverbes et le Cantique des Cantiques, Salomon se présente clairement comme l'auteur. Pourquoi ce silence? Pourquoi aucune déclaration franche présentant Salomon comme l'auteur? Comme une grande partie du livre est autobiographique, peut-être eut-il honte d'y accoler son nom. La tradition et certains exégètes récents maintiennent que Salomon est bien l'auteur. Qui d'autre aurait pu se présenter comme fils de David et roi de Jérusalem? Nous avons devant les yeux un homme qui, à cause de sa position privilégiée, a pu goûter à tout ce que la vie peut offrir. Mais il est roi maintenant et il porte la responsabilité de régner sur les autres. Il a aussi la responsabilité de les enseigner et il prend donc le livre de l'Ecclésiaste qu'on peut aussi, que certains auteurs ont traduit au lieu d'Ecclésiaste, c'est prédicateur ou Coélet. On verra ça un peu plus tard. Alors, il y a certainement plusieurs preuves internes qui confirment le point de vue traditionnel quant à la paternité littéraire de Salomon. Premièrement, il se désigne comme le fils de David, roi de Jérusalem, dans le verset 1. Il possède une sagesse sans égale, verset 16 du chapitre 1. Dans le chapitre 2, au verset 1 à 3, on dit qu'il s'est vautré dans tous les plaisirs. Quatrièmement, dans le verset 8 du chapitre 2, on dit qu'il possède une richesse considérable. Cinquièmement, ça dit de sa personne qu'il a entrepris des travaux de construction colossaux, dans les versets 4 à 6 du chapitre 2. Et sixièmement, qu'il possède une belle collection de proverbes. Donc, vu que dans le livre des proverbes, il s'identifie clairement comme en étant l'auteur. Et aussi, septièmement, les proverbes contenus dans ce livre ressemblent à ceux du livre des proverbes. Alors, bien sûr, certains spécialistes ne partagent pas l'opinion traditionnelle, comme de quoi que c'est Salomon qui en est l'auteur. Cependant, les preuves sont nettement en faveur de Salomon comme auteur du livre de l'Ecclésiaste. Il était mieux qualifié que quiconque pour écrire ce livre. Alors, on peut aussi essayer de déterminer la date de composition et aussi essayer de situer un petit peu le livre dans son côté historique. Autrement dit, le livre reflète la deuxième partie de la vie de Salomon. Immédiatement après son relâchement spirituel, et sans doute très peu de temps avant sa mort, qui aurait eu lieu en 930 avant Jésus-Christ, et qu'il se regarde lui-même comme un roi vieux et insensé. Dans le verset 13 du chapitre 4, on voit que, au début de sa vie, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Mais à l'âge mûr, il se détourna de Dieu et mit sa sagesse exceptionnelle au service de sa quête d'une satisfaction et d'un bonheur sans Dieu. Il n'est pas étonnant, alors que tout lui paraisse futile et vain, lorsqu'il dit dans le verset 2, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Tout ce qu'il connaît ou a expérimenté dans le monde semble vide et absurde. En fin de compte, il revient vers Dieu. Quand on lit le verset 15 du chapitre 12, ça dit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Si Salomon est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, la fin pourrait indiquer que peu avant sa mort, il retrouva le chemin d'une juste communion avec Dieu. Contrairement au message d'un bon nombre de prophètes, le livre de l'Ecclésiaste ne s'adresse pas à une nation particulière à un moment donné de son histoire. Avec toutes ses leçons et illustrations, ce livre est la propriété de l'Église et du monde de tous les temps. Lorsqu'on avait à résumer les principaux thèmes que l'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, on pourrait très certainement dire, premièrement, la futilité de la vie sans Dieu. Deuxièmement, l'inévitabilité de la mort. Autrement dit, la richesse, le pouvoir, le prestige, le succès et les plaisirs frivoles sont sans valeur parce que la mort est inévitable. Et troisième thème majeur, la seule certitude, Dieu et l'ambition de lui plaire sont les seules choses dignes d'être poursuivies. Alors, le choix du mot, dans mon titre, j'avais donné comme titre « Précarité des précarités, tout est précarité ». Alors, le dictionnaire Robert définit le mot « précarité » comme étant le caractère ou l'état de tout ce qui est précaire, fragile et instable. C'est quelque chose dont l'avenir, la durée et la stabilité ne sont pas assurés. C'est quelque chose d'éphémère et d'incertain. Alors, bien entendu, on aurait pu dire encore beaucoup de choses concernant l'ensemble du livre, concernant certaines caractéristiques du livre. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais ça nous donne quand même une idée générale des principales choses qu'il faut savoir avant de même commencer l'étude du livre. Alors, ce qu'on va faire, on va y aller maintenant par les trois idées qu'on avait dit au début. Donc, la première idée, c'était que la précarité, elle est exprimée dans le verset 1. Alors, dans le verset 1, tout simplement, si on reprend, ça dit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. » Dans la tradition juive, le livre de l'Ecclésiaste est lu lors de la fête de Soukhot. Soukhot ou la fête des cabanes, la fête des huttes, des abris temporaires, des habits provisoires et fragiles. Alors, à cette époque-là, la fête du Soukhot, chacun se devait d'édifier sous le soleil, puis sous les étoiles, sa dérisoire hutte. Une fois par an, il faut abandonner toutes les possessions, tous les biens, toutes les sciences, toutes les sagesses, bref, toutes les vanités, et pour une semaine, vivre sous une simple hutte. Et cette fête de la fragilité et de la précarité est aussi celle de la joie. Alors, pas pour rien que le Seigneur avait fait ça. Une fois par année, il fallait que les Juifs, ça fasse, il appelait ça la fête des Soukhot. Pendant une semaine, ils prenaient des branches, toutes sortes de et ils se faisaient une petite cabane. L'idée, c'était que Dieu voulait rappeler au peuple que la vie est courte, la vie est fragile et qu'on peut facilement être trompé et on se doit de se rappeler justement la fragilité et la précarité de cette vie. Alors c'était important de pourquoi les Juifs lisaient le livre de l'Ecclésiaste lors de la fête de Soukhot. Je pense que c'était très significatif. Il y a un lien pour montrer, le Seigneur voulait montrer à la fête de Soukhot la fragilité et la fragilité de la vie. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, bien sûr, c'est quoi si ce n'est pas l'idée principale de l'ensemble du livre? Alors, on commence par le premier mot. C'est intéressant parce que le premier mot du verset 1 nous dit « parole ». Alors, on se doit ici de constater constamment, nous rappeler que l'Ecclésiaste fait partie du Saint-Livre et qu'à ce titre, il est doté d'une autorité divine. Il trouve sa source en Dieu lui-même, qui lui confère, bien entendu, un poids infini et une vérité absolue. Le Seigneur daigne utiliser un instrument humain, probablement le très sage et très expérimenté Salomon. Alors, bien sûr, si on lit le mot « parole » ici, Dieu utilise les paroles de la Bible pour nous parler, Mais souvent, il se sert des paroles de la Bible à travers un prédicateur ou à travers quelqu'un, un instrument. Alors, bien entendu, ici, il dit parole. Alors, les Écritures nous disent dans Romains, au chapitre 16, au verset 27, que Dieu est le seul sage. À Dieu, seul sage, soit la gloire dans tous les siècles, par Jésus-Christ. Amen. Alors ici, le mot parole, bien entendu, je pense qu'il faut voir que c'est à la fois les paroles de Dieu, mais les paroles de Dieu qui passent par un instrument, qui passent par un outil que le Seigneur utilise, ici, qui n'est pas n'importe qui non plus. Il faut se rappeler qu'il était l'homme à qui Dieu avait donné le plus de sagesse. Il lui avait dit aussi que jamais avant lui et jamais après lui, il y aurait un homme aussi sage. Alors, c'est de regarder ce que l'homme dit, les paroles. Alors, les paroles, c'est quelque chose qui peut vouloir dire beaucoup. Aujourd'hui, on abuse beaucoup du langage, des paroles, dans la publicité, dans toutes sortes de domaines. Mais dans le fond, les mots sont très importants et lorsqu'on sait les utiliser, ils peuvent avoir un pouvoir édifiant et aussi ils peuvent avoir un pouvoir destructeur. Et ici, les paroles que cet homme, que le prédicateur, l'Ecclésiaste vont apporter au peuple d'Israël et bien entendu à l'Église de tous les temps après, tous les croyants de tous les temps, sont des paroles importantes. Alors, ici, bien entendu, on voit que Dieu, la source est Dieu seul sage, parce qu'on sait que la Bible est inspirée de Dieu. Donc, les paroles ici, c'est les paroles de Salomon, que Salomon a prononcées, mais si on garde l'interprétation que Salomon en est l'auteur, mais il faut se rappeler aussi que ça fait partie du canon des Écritures, ça fait partie de l'ensemble des livres des Écritures, et que le Seigneur a un message très important à nous véhiculer à l'intérieur de ce livre-là. Alors, si le roi Salomon, si Dieu se sert d'un instrument qui est le roi Salomon, il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des rois, au chapitre 4, les versets 1 à 33, le Seigneur nous parle de la qualité de sagesse, de la quantité de sagesse qu'il avait donné à cet homme. Parce qu'on se souvient que Salomon avait demandé à Dieu, il se sentait impuissant pour régner sur le peuple. Il était conscient qu'il avait des besoins. Et il avait demandé à Dieu, non pas une longue vie, non pas de la richesse, non pas que ses ennemis meurent, mais il avait demandé à Dieu de la sagesse. Alors ça dit dans les versets 29 de 1 Roi, chapitre 4, « Et Dieu donna à Salomon de la sagesse, une fort grande intelligence et un esprit aussi vaste que le sable qui est sur le bord de la mer. Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les Orientaux et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrakites, et Éman, Calcol et Darda, les fils de Makol, et sa réputation se répandit parmi toutes les nations d'alentour. » Verset 32, ça dit, « Il prononça 3000 sentences, et ses cantiques furent au nombre de 1005. Il a aussi parlé des arbres, depuis le cèdre qui est au Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Et de tous les peuples, on venait pour entendre la sagesse de Salomon de la part des rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. » Donc, tu sais, ici, on nous parle de sa sagesse était plus grande que tous, aucun homme avait eu avant lui. Et sa réputation s'était tellement bien bâtie que tous les gens importants qui avaient quelque relation que ce soit avec Israël avaient entendu parler et venaient pour constater par eux-mêmes, un peu comme la reine de Séba quand elle est venue le rencontrer. On peut aller regarder un autre passage aussi dans le livre d'un roi, au chapitre 3, les versets 10 à 12. Ça dit, « Or ce discours plut au Seigneur en ce que Salomon lui avait fait cette demande. Et Dieu lui dit, « Puisque tu m'as fait cette demande et que tu n'as demandé ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice. Voici, je fais selon ta parole. Je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi, nul n'aurait été pareil à toi, et qu'il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. » Alors ici, je pense qu'on est en train de juger de la qualité des paroles qui vont être données parce que c'est l'homme à qui Dieu a dit qu'il lui avait donné une sagesse qu'aucun homme avait eue avant lui et qu'il lui en avait donné une qu'aucun homme n'aurait après lui. Alors, on peut voir la qualité et l'autorité des paroles que cet homme-là s'apprête à dire dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, ça dit « parole », puis tout de suite après, on dit « de l'Ecclésiaste ». Dans la version Darby, au lieu de « parole de l'Ecclésiaste », c'est « parole du prédicateur ». Parce que le mot « ecclésiaste » ou « coélet » est utilisé, ce nom « coélet », Q-U-O-H-E, accent grave, L-E-T, « coélet », dans certaines versions, même si c'est le mot « coélet » qui est utilisé, véhicule l'idée de rassembleur, d'instructeur, d'orateur et de plaideur. Autrement dit, c'est les paroles de l'instrument que Dieu a choisi, mais qui a eu une intelligence très nettement supérieure et une sagesse que Dieu dit que personne ne l'avait eu avant lui, personne n'aura plus après lui. Alors, ça nous donne une idée. Le premier verset nous fait déjà rentrer dans le côté solennel, dans le côté sérieux, pour démontrer que Dieu utilise un homme qui a tout ce qu'il va mentionner sur la vie. Il a tout fait, il a tout essayé. Il n'y a pas rien qui s'est privé. Mais on pense que c'est sur la fin de sa vie. Il a écrit ce livre-là, et quand on regarde, il trouve que tout est précaire, tout est sans valeur, tout est... Si tu ne places pas Dieu en premier, c'est toutes des choses qui ne mènent nulle part, fragiles, qui est un peu comme une bulle de savon qui peut crever à tout moment donné. Alors, c'est très important de réaliser cela. Alors, l'Ecclésiaste, Dieu se sert d'un prédicateur qui est le roi. Qui est le plus sage et le plus savant de son époque, parce que imaginez-vous que les personnes, les rois des alentours venaient le rencontrer pour pouvoir voir de visu, comme on dit, l'authenticité de sa réputation. Et là, ils disent, il y a un mot qui est important, parce que si on continue le verset 1, parole de l'Ecclésiaste, et là, on mentionne tout de suite l'idée fils de David. Alors, le fils de David, on sait que c'est Salomon. Et question de se souvenir que le mot David signifie chéri ou aimé de Dieu. Alors, il était le fils du roi David, dont la parole nous dit qu'il était aimé, dont le nom même signifie chéri ou aimé de Dieu. Le père de Salomon était David. Salomon était donc de lignée royale. Donc ici on comprend, non seulement il donne un prédicateur, le plus sage de tous, mais c'était un roi. Alors là, on commence à avoir une petite idée, il était le fils de David, et commence à avoir une idée d'où ça nous mène tout ça. Alors bien entendu, si celui qui parle dans le livre de l'Ecclésiaste, il est un roi. Mm. Bien sûr, ça confère du prestige à son discours. Mm. Et le titre aussi, fils de David, peut allumer, parce que dès qu'on lit le mot fils de David, on n'est pas sans faire un parallèle avec ce qu'on peut lire de ce titre-là dans le Nouveau Testament et qui va avec Jésus-Christ. Alors, on va aller justement dans Romains, chapitre 1, versets 1 à 3, et on va voir que le Nouveau Testament utilise cette expression-là, fils de David, pour Jésus-Christ. Alors, ça dit dans Romains 1, versets 1 à 3, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son fils, né de la race de David, selon la chair. » Alors, pour voir la lignée qu'il y avait à l'époque de l'Ecclésiaste, il était fils de David, mais que cette lignée-là s'est transmise jusqu'à Jésus. Ouais. Et Jésus lui-même était fils de David. On voit aussi dans Matthieu, chapitre 1, verset 1, ça nous dit « Livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Alors, très important de faire le lien entre les deux. Si c'était pour le roi Salomon un honneur d'être appelé fils de David, le Christ lui-même a pris ce titre-là. Alors, il faut faire le lien un petit peu pour présenter le premier verset. Alors, les débuts de la vie de Salomon avaient honoré le Seigneur. Cependant, au cours des années, son cœur s'est égaré et il n'a pas vécu à la hauteur de sa sagesse du point de vue spirituel. Il est possible que nous observions ici une vérité exprimée dans le livre des Proverbes concernant la possibilité que la semence d'un enseignement reçu de son père, David, durant sa jeunesse, vienne porter son fruit dans la vieillesse de Salomon. Parce qu'on lit dans le Proverbe au chapitre 22, le verset 6, « Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera point. » Alors aussi, il y a une idée intéressante à prendre compte. Si on croit que Salomon est véritablement l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, on sait que son père était David, donc son père lui avait très certainement transmis des valeurs et des connaissances concernant la Bible et concernant les choses spirituelles. On sait que son problème, lui, ça a été les femmes qui l'ont entraîné dans l'idolâtrie, mais ça n'exclut pas l'idée qu'à la fin de sa vie, il ait réfléchi à toute la vie qu'il a menée et que le Seigneur a permis qu'il comprenne et qu'il écrive ce livre-là dans le but de montrer au peuple d'Israël et à tous les croyants de toutes les époques qu'une vie à laquelle on ne donne pas priorité au Seigneur, c'est une vie précaire, une vie fragile, une vie aussi fragile qu'une bulle de savon qu'on peut crever à tout instant. Et il y a encore d'autres mots qui sont mentionnés, c'est celui de roi de Jérusalem. Alors, donc seulement, il est fils de David, mais il est aussi roi de Jérusalem. Le nom Jérusalem, le nom de la capitale d'Israël, signifie fondement de la paix. Alors ici, c'est le roi de Jérusalem, donc le fondement de la paix. Il faut se rappeler que dans les Écritures, Dieu lui-même avait donné à Salomon le nom de Jedidia, qui signifie « aimé de l'Éternel ». Quand on regarde ça, David, le mot David, le prénom David, voulait dire « chéri ou aimé de Dieu ». Quand on regarde Salomon, son fils, qui veut dire « était aimé de Dieu », « aimé de l'Éternel », Alors, il y a quelque chose d'important à se souvenir ici. Mm. Moi, je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un a reçu la grâce, il peut vivre n'importe comment, puis Dieu va nécessairement lui donner le salut à la fin de sa vie. Pas ça, je pense. L'idée, c'est que Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu envers un être. Bien sûr, l'être peut... Ça peut arriver qu'au cours de sa vie, il se soit égaré, il a fait des mauvais choix, qui a eu des conséquences graves à la fois pour lui, pour ses enfants, et aussi pour toute la nation d'Israël, mais qu'à la fin de sa vie, Dieu a permis, pas pour rien qu'au 12e chapitre, là, il revise tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu intensément, il a vécu très intensément. On se souvient qu'il avait eu 1000 femmes, 1000 concubines. Alors, c'est un homme qui il savait ce que c'était les plaisirs de la vie. Mais sur la fin de sa vie, il a voulu résumer que la chose la plus importante, c'était de craindre l'Éternel et d'obéir à ses commandements. Que c'était la seule poursuite digne d'un homme, surtout d'un croyant, bien entendu. Parce qu'un incroyant n'aura jamais comme volonté de poursuivre, de connaître mieux Dieu, de mieux lui obéir, de le craindre et d'obéir à ses commandements. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va arrêter là, parce qu'on a déjà 45 minutes, puis on finira la leçon la semaine prochaine.